Le 19 janvier 2021 a eu lieu la deuxième lecture pratique du Laudato Si concernant le chapitre 2, première partie, proposée par le Père Pellevue.
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs.
Voilà. Donc c'est Vincent et Blaise aujourd'hui qui vont nous accompagner dans la lecture.
Tous, c'est du costaud.
Oui, hein, il va falloir faire rouler la rosse pour écouter les uns et les autres. J'espère que tout le monde a lu très attentivement ce deuxième chapitre. Vous avez vu qu'il est très vaste et très dense. Et on s'est dit avec Fred, ça m'étonnerait qu'on arrive à l'épuiser en une seule rencontre. Donc on ne va pas se précipiter à vouloir tout survoler. On va essayer de plus... rentrer dedans, au risque de ne pas tout faire, puisque ça fait quand même une quarantaine. Parce que l'intérêt de notre démarche, c'est de vraiment nous-mêmes de se laisser travailler par ce qui est dit par le pape, avant de vouloir faire quelque chose concrètement après en extérieur. Donc ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est vraiment une interpellation personnelle. Dans un instant, on va essayer de se mettre dans la présence du Seigneur. Et puis ensuite, Blaise va nous faire quand même un petit panorama rapide du deuxième chapitre, avant qu'on puisse rentrer dans un temps de questionnement. Et puis, dans la deuxième partie de notre rencontre, on arrêtera donc la réflexion sur le texte et on essaiera de voir cette question de jardin partagé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Elle était un peu plus concrète la dernière fois. Normalement, c'était ça la proposition. Ça va à peu près comme quoi? Pour me mettre en prière, je vais simplement prendre la prière qui est offerte par le pape pour tous. Et vraiment essayer de se rentrer de l'intérieur doucement pour l'accueillir. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés. Dieu Tout-Puissant, tu es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui vole tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs. Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux et celles qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Seigneur, nous te confions ce temps de partage cet après-midi. Apprends-nous à nous laisser mener par ton esprit afin d'intensifier nos échanges. Nous te demandons à toi qu'il y ait pour la suite des siècles. Amen.
Mal à partir avec des masques. Voilà, donc comme Vincent a dit, donc je vais faire un petit parcours des résumés, un peu pour nous aider à entrer dans cet esprit, l'esprit de ce deuxième chapitre. Donc ce deuxième chapitre que nous allons méditer, partager et essayer de pratiquer, c'est ça le but, intitulé « L'évangile de la création ». Affronter les problématiques décrites dans les précédents chapitres, c'est-à-dire dans le chapitre 1 que nous avons entendu la dernière fois, le pape François relit les récits de la Bible et offre une vision totale de la tradition judéo-chrétienne, expliquant la terrible responsabilité de l'être humain vis-à-vis de la création. Et aussi les liens intimes entre toutes les créatures et le fait que l'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité sous la responsabilité de tous. Ce chapitre 2 comprend 7 points. D'abord, le premier point, c'est la lumière qu'offre la foi. C'est le numéro 63 et 64, c'est le plus court d'ailleurs de numéro. La complexité de la crise économique nécessite un dialogue multiculturel et pluridisciplinaire qui inclut la spiritualité et la religion. La foi offre des grandes motivations pour la protection de la nature, mais aussi des frères et des sœurs le plus fragiles. Les obligations envers la nature font partie de la foi chrétienne. Le deuxième point, donc la sagesse des récits bibliques. Donc, cette chapitre 2, c'est une remarque, c'est vraiment enraciné dans la Bible. Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers. Et en lui, amour et rigueur se conjuguent. Le récit de la création est central pour réfléchir sur les rapports entre l'être humain et les autres créatures. Et sur comment le péché est à la base des déséquilibres de toute création. Ce récit suggère que l'existence humaine repose sur trois relations importantes, fondamentales, intimement liées. D'abord, la relation à Dieu ou avec Dieu. Aussi, la relation avec l'entourage des êtres humains et des prochains. Et à la fin, ce qu'on oublie, et que d'ailleurs aussi, donc, c'est le but de cette encyclique, d'après moi, notre relation avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Et cette rupture est le péché. La terre est un don et non une propriété qui nous a été donnée dans l'avenir d'administrer, pas pour les détruire. Troisième point, les mystères de l'univers. La création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte de Dieu le Père de tous. Et à partir des œuvres créées, on s'élève dans la miséricorde pleine d'amour. Et en Jésus ressuscité, la création marche jusqu'à la plénitude de Dieu. Dans cette communion universelle qu'on reprend dans le cinquième point, l'être humain, avec son intelligence et son identité personnelle, représente une nouveauté qualitative. Il est responsable de la création qui a été confiée à ses soins. Sa liberté est un mystère qui peut promouvoir le développement ou la dégradation de cette création. Dans le quatrième point, c'est le message de chaque créature dans l'harmonie de toute la création. Chaque créature a une fonction et qu'aucune c'est superflu. Tout montre de la caresse de Dieu. Avec Saint Jean Paul II, nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les saintes écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. L'univers dans son ensemble et dans sa complémentarité exprime la richesse inépuisable de Dieu. C'est le lieu de sa présence où il nous invite à l'adoration. Sur mon cinquième point, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, une communion universelle créée par le même Père. Nous et tous les êtres de l'univers, c'est-à-dire de la nature, nous sommes unis par des liens invisibles et forment une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré. Cette approche n'est ni une divinisation de la terre, ni la négation de la prééminence de l'être humain dans l'ensemble de la création. Aussi le sentiment d'union intime avec les autres de la nature ne peut pas être réel si, en même temps, il n'y a pas de cœur et de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. La destination commune des biens, le cinquième point. La terre est essentiellement un héritage commun. Ce qu'on appelle, c'est pourquoi on l'appelle la terre, la maison commune, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Et la personne qui a possédé une part est appelée l'administrateur dans le respect de l'hypothèse sociale qui pèse sur n'importe quelle propriété. Enfin, le septième point, c'est le regard de Jésus. Jésus nous invite à reconnaître la relation paternelle que Dieu a et avec toutes ses créatures qui vivent en pleine harmonie avec la création, sans mépris pour les corps, la matière et les songes agréables. Les desseins de toute la création passent par le mystère du Christ qui est présent depuis l'origine de toutes choses et qui, à la fin des temps, nous mettre toutes choses au Père. De cette manière, les créatures de ce monde ne présentent plus en nous comme une réalité purement naturelle parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Voilà, petit résumé de ce que j'ai retenu de ce chapitre 2 qui peut peut-être nous aider à continuer sur notre discussion. Merci.
Maintenant, la parole est à chacun de nous. Peut-être qu'en arrivant ici, vous vous êtes dit, alors moi, ce que j'aurais envie de dire de ce chapitre 2, est-ce que vous avez... Voilà. d'une manière un peu... Est-ce qu'il y a un point plus particulier qui vous avez envie de partager maintenant, qui interpelle, qui bouscule, ou qu'on ne comprend pas et qu'on pourrait réfléchir ensemble?
Moi, il y a un truc qui m'a marqué dès le démarrage. Dès le démarrage, parce que apparemment, cette encyclique a été bien reçue dans le monde. Elle a eu un impact. Bon, il explique bien qu'on est tous concernés, absolument tous. Mais il y a un truc qui m'a particulièrement plu au démarrage. Il a commencé par dire ce que nous, chrétiens, et nous pas nous distinguer des autres, mais ce qui était fondamental pour nous, c'était ça. Je n'ignore pas que dans le domaine de la politique, de la pensée, certains rejettent avec force l'idée d'un créateur, ou bien la considèrent sans importance, au point de reléguer dans le domaine de l'irrationnel la richesse que les religions peuvent apporter. Et ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire, parce qu'il le fait d'une façon totalement naturelle, et c'est pas du tout agressif, et il dit, bon, on partage quelque chose de commun, et nous, on vous précise un petit peu et ce qui est... Et c'était au fond de notre cœur. Voilà.
Bon, la question, c'est qu'on reproche souvent à l'Église, au pape, de se lever de ce qu'il ne regarde pas. Et en fait, là, il justifie pleinement, d'une façon claire, que si l'environnement regarde bien les chrétiens ont quelque chose à nous dire sur l'environnement. À leur façon, on n'est pas obligé d'aborder, mais ça permet de reconnaître que nous avons quelque chose à dire sur ce sujet-là, que ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de la foi, de la religion, de la science. Il n'est pas mauvais pour répondre à des facteurs habituels.
Moi, j'avais retenu aussi que rien de la création est dû au hasard, et qu'il n'y a, y a pas... une hiérarchie dans la création. Voilà, le respect qu'on se doit, même au plus petit élément de la nature, parce que si ça a été créé, c'est que ça a été réfléchi, et quand il a fini la création, il s'est posé, il a regardé, et il a trouvé que c'était bon, et il n'a pas trouvé à rectifier. Moi, j'ai retenu ça, et je trouvais que c'était quand même... ça m'a interloqué, quoi.
Il n'y a pas de hiérarchie, mais il reconnaît quand même une place particulière à l'homme.
Oui.
Par
oui.
son intelligence, par sa façon de raisonner. Donc oui. c'est pas tous égaux, tous au même niveau. Il reconnaît à l'homme une place et un rôle particulier. D'amener cette création là où elle doit aller.
Mais il dit à un moment donné, même une petite créature, en fait, un petit animal qui vit que quelques minutes. Et ça est fait en plein dans l'amour de Dieu, avec un respect absolu de Dieu, de la paix. C'est-à-dire que c'est l'intégralité de la création qui est concernée par cet amour de Dieu.
Et pour donner suite, effectivement, je peux percevoir aussi, parce que si l'homme, effectivement, à un moment donné, je ne sais pas si c'est exactement le cas, doit dompter, etc., la nature, il nous interpelle sur notre responsabilité de faire attention, justement, quand je dis aux plus petits, je ne parle pas que des hommes, je parle à tout élément. Donc, il nous envoie notre responsabilité de ne pas se mettre au-dessus du lot. Enfin, voilà. Je suis peut-être à côté, mais je comprends ça un peu.
Et oui, mais d'ailleurs, il dit que quand toutes ces relations sont négligées ou mal comprises, la vie est en danger.
C'est ça.
Alors ça, c'est énorme, hein,
c'est... Pour ma part, en lisant cette merveille, je ne peux appeler ça que merveille, je me dis qu'il était temps qu'on parle de cette beauté, de cette nature, de la place de chacun, depuis le tout petit animal jusqu'à l'homme, qui est le seul être pensant et qui peut justement modifier en positif ou en négatif cette création. Et c'est notre responsabilité là qui est à appeler.
Mais est-ce que Dieu ne nous a pas fait un peu trop confiance parce qu'on a quand même bien gaspillé la création? Ça va être difficile, hein, je ne sais pas si c'est récupérable.
Si, on peut toujours le croire. Ça peut se reconstruire.
En parole.
Mais c'est quand même intéressant d'entendre, au fur et à mesure, quand même les questions, ça nous bouscule.
Oui, oui,
parce que sinon, on risque de répondre trop rapidement, histoire de se rassurer. Mais je crois que notre question, elle est fondamentale. Et qu'on soit, même en tant qu'humain, de dire, mais on a gravement merdé, quoi.
C'est
une expression, mais on a été très loin. Et que du coup, qu'on découvre, peut-être au bout d'un moment, mais Dieu, il nous fait confiance, quoi. Et comment ça nous percute dans notre foi. C'est ça aussi qui est l'intérêt, justement, d'oser se poser des questions lourdes de conséquences.
Grave.
Mais on ne fait pas confiance à Dieu parce que je suis comme la dame, on est allé trop loin. Moi, je ne vois pas comment on peut revenir en arrière.
Il le dit clairement à un moment donné, il dit que tout ce que vous avez donné dans la création, c'est à notre service. Il faut l'utiliser avec modération. Et en définitive, on abuse de l'utilisation de la nature jusqu'à la détruire.
Il ne faut pas l'utiliser, il faut l'embellir. Oui.
Moi, je vais relever une phrase. Je vais relever entendre chaque créature chanter l'hymne de son existence, c'est vivre joyeusement dans l'amour de Dieu et dans l'espérance.
Oui. Oui, de fait, il nous invite à nous ancrer dans une espérance absolue. Hein, ça, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, ne sautons pas les étapes. Et osons accueillir, oui, je suis désemparé. Oui, là, aujourd'hui, on est un peu mal foutu.
Oui.
Hein, intérieurement, ça déstabilise fort. En tout cas, moi, je vous rejoins aussi sur cette question-là.
C'est la première question.
Même si je reste dans l'espérance, mais voilà. Sinon, on fait un peu un déni de réalité, quoi.
Oui, voilà.
Non,
Moi, c'est une découverte que j'ai faite, c'est que Jésus se sert beaucoup de la nature pour parler aux hommes, et dans tout ce que j'ai vu, dans ces paraboles, surtout, et on disait que c'était parce que la population était rurale et on trouvait des pêcheurs, donc la nature, on s'en servait comme ça. Et alors que la création, c'est autre chose aussi, c'est la vie. Donc, et je me sens un petit peu coupable parce que j'ai longtemps fait de la catéchèse et on ne parlait pas de la création comme ça quand on faisait de la catéchèse. Donc, c'est maintenant qu'on découvre peut-être tout
ce qu'on a mal fait, qu'on doit changer un petit peu. Alors de fait, on dit que ça a pas mal été accueilli à l'extérieur. Est-ce que vous avez entendu parler autour de vous, des gens en dehors du réseau Cato, dans votre entourage, est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui.
Et en quel terme?
Parce que c'est encyclique. Hein, je me rappelle que la réunion de tous les États pour parler de ça, ils ont attendu que l'encyclique du pape soit sortie, tous nos dirigeants de tous les pays, qui sont riches, pour dire sur quoi on se base pour prendre des décisions ou pour lancer des discussions, parce que c'était une référence, Laudato Si.
Dans les médias, on l'a entendu.
Oui, voilà.
Dans certains médias, ils ont vraiment dit que c'était une belle surprise. J'ai entendu ça.
C'est pas dans notre entourage direct.
Voilà, c'est ça.
Dans notre entourage,
c'est à deux niveaux, et c'est intéressant d'entendre déjà cet écho lointain au niveau des institutions.
Oui.
Mais dans notre entourage, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous connaissez des personnes? Est-ce que ça a été l'occasion de discuter?
Oui.
Oui.
Ah oui, on en a parlé.
Avec un entourage très proche.
Oui, mais ne serait-ce que ça.
Non, mais même les amis, même sans que ce soit un caractère religieux. Hein, c'était...
Il me semble que le film sur le pape, il y a une grosse partie au début sur la création. Et là, c'est quand même du grand public, quoi.
Oui.
Après.
honnêtement, déjà les catholiques, je ne suis pas persuadé qu'ils aient fait la démarche d'acheter le bouquin et de le lire. C'est quand même pas accessible au grand public, on ne le trouve pas, je ne sais pas si on le trouve. Si. Ben, je ne connais pas de public, moi, suffisamment sensibilisé pour aller acheter le bouquin, le lire et puis en parler. Je ne connais pas autre chose. Même s'ils sont proches du problème, je ne pense pas qu'ils soient allés jusque-là.
De votre côté ? Alors justement, c'est ça ma question. Maintenant que vous l'avez lu, est-ce que vous diriez, tiens, est-ce que je me sens mieux armé, entre guillemets, pour essayer de proposer une réflexion et de dire, tiens, ça peut être une porte d'entrée pour réfléchir les questions très, enfin, entièrement communes de toute façon. Et est-ce qu'on est prêt à ça?
Ah oui, ça donne des arguments, oui, c'est vrai que on peut discuter à partir de la lecture de ce qu'on en a fait. Mais par contre, quand on arrive, on a une lecture, on a déjà une notion de ce qu'est la création et tout ça, qu'on n'avait pas soupçonné, c'est vrai, Bernadette, on n'en parlait pas comme ça. Et puis après, on rétrécit le champ et on s'aperçoit que dans notre entourage et soi-même, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose là ? Là, je suis très sceptique. On a tous des voitures, on consomme tous de l'eau à outrance. Est-ce qu'on est prêt à changer ça ? Personne.
C'est des questions, quand même.
Mais il y a toujours des bonnes raisons. Ah ben non, moi j'habite à 500 mètres de la ville, alors il faut qu'on ait chacun notre voiture, c'est pas possible autrement. Et on a tous des bonnes réponses, mais on n'a pas la bonne réponse.
Ben, c'est-à-dire que là, du coup, cette liste de questions, après, c'est la réponse se doit d'être personnelle.
Et, oui.
Et de travailler à, ben voilà, est-ce que je suis capable de faire ceci ou cela?
Je ne crois pas.
Ben, il y en a quand même qui le font, hein, largement.
Oui, j'espère, oui.
Et pas obligatoirement des cathos.
Non, absolument.
Il y a un consensus sur la question.
Voilà, c'est ça. Et de fait, il y a quand même un grand, bien des évolutions qui sont faites, surtout dans la jeune génération, où ils changent leur mode quand même. Oui.
Au moins, ils
se posent la question. Il y a quand même des modifications. Et il faut encore le travailler. Mais si on commence par dire, de toute façon, il n'y a personne qui le fait parce que tout le monde se trouve des bonnes excuses, c'est évident qu'on ne va rien faire, on ne va pas se motiver. Mais le fait de dire, tiens, en fait, quand c'est l'histoire du petit colibri, vous connaissez tous l'histoire, lui, il est capable de faire ça, pourquoi pas moi, puis pourquoi pas l'inviter un autre à le faire.
C'est vrai.
On fait des efforts, là. Beaucoup de gens font quand même des efforts. Reviennent un peu à l'arrivée, c'est à la base, quoi. Alors, on dit que les petites fermes dans les grandes rivières, mais il va falloir les petites rivières. Je pense que pour tous les pays, les plus grands des pays qui ne font pas ce qu'il faudrait faire.
Oui, mais ne serait-ce que l'Amérique.
Ils sont tellement pris à la gorge de les côtés sans doute.
Le gros risque est de toujours dire, comme Adam, puisqu'on est dans un texte biblique, c'est pas moi, c'est l'autre. On a toujours cette tendance-là, et de dire, du coup, c'est pas moi le premier responsable, c'est d'abord l'autre de bouger.
Hein? Sauf que je rejoins bien votre constat, c'est-à-dire que, plus ou moins consciemment, nous-mêmes, on change. Et pour moi, j'ai envie de dire, il y a quelques gestes aujourd'hui qui deviennent naturels. Le tri du papier, c'est des choses très basiques, hein, de fait, je fais rien d'exceptionnel, mais voilà, le tri du papier et du carton, moi, c'est quelque chose qui devient naturel. Et donc, du coup, je suis attentif à me dire, mais quel nouveau pas je peux faire, quoi, où est-ce que je peux, parce que ça ne me satisfait pas, parce qu'on est bien, voilà, on a bien la conscience plus ou moins angoissée de l'état de notre planète. Donc oui, j'ai fait un premier effort, mais où est-ce que je peux avancer un peu plus, quoi. Donc ça, je trouve que c'est, pour moi, une expérience un peu motivante, dans le sens où se dire, ben, parce qu'on n'en a jamais fini, et bon, on a fait un premier pas là-dessus, sur le tri, et puis ça reste à améliorer, mais il y a certainement d'autres lieux où je peux encore avancer. Mais voilà. Je trouve ça un peu stimulant, quand même. De se dire que oui, on a fait un premier pas, mais il y en a d'autres à faire.
Il y a une chose là-dedans, quand on pense, mettons, aux écolos purs et durs, qui sont souvent très marqués politiquement et tout ça. Et ce texte-là, il peut aller, ça peut être une accroche pour un dialogue, pour un truc comme ça, parce que on s'aperçoit qu'avec des positions de base qui sont très 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 différentes, on est complètement concerné par ça.
Et ce que je trouve par rapport aux écolos très durs, c'est la beauté de la réflexion, c'est-à-dire qu'il nous permet de prendre du recul à travers son... Vraiment, et ce n'est pas du militantisme bête, et de fait idéologique au bout d'un moment, et qui m'a plu, mais il nous propose de vraiment prendre du recul et de fait avoir une bonne argumentation. C'est-à-dire, je ne vais pas t'imposer mon point de vue, mais essayons d'échanger, de nous mettre en route ensemble pour un mieux aller.
Avancer ensemble.
Et c'est vrai que du coup, par rapport à ce que vous disiez au tout début, il nous montre aussi qu'est-ce que c'est que de rentrer en dialogue.
Oui.
Alors que souvent en Église, de fait, on est toujours en contre, on a été très longtemps à condamner tel ou tel truc. Là, il ne condamne rien et il invite les autres à dire voilà, on peut y réfléchir ensemble. Et je trouve que la démarche, elle est très très belle et très profonde sur énormément de points.
Ça, c'est notre pape. Hein. Ça décrit notre pape.
Oui, mais c'est vrai. Mais du coup, à nous rentrer dans cette démarche-là, c'est-à-dire je ne condamne pas l'autre de sa manière de fonctionner, mais je vais regarder ce qu'il y a de beau chez lui, qu'est-ce qu'il fait, et peut-être l'inviter, je peux interpeller l'autre, mais sans être dans la condamnation. Alors qu'on est assez, quand même assez rapide à le faire.
Vous voyez, ça va très loin de temps en temps, mais je prends trop la parole. Non. Il y a une phrase, un passage, où il dit « Le Créateur peut dire à chacun de nous, avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » Et ça, moi, je le relis à José Bové. José Bové qui marche pour la défense de la vie dès la conception. Il est très engagé, je sais vous faites. Il y a ce genre de choses où ça peut être une... Et un beau...
Ça confirme bien que rien est au hasard, quoi. Oui. Si quelqu'un est là, c'est un don de Dieu, quoi.
Mais quand on parle de ça, très souvent, il va y avoir les pro-vie, comme on les appelle, qui vont être en système de compte, et qui vont casser tous ceux qui sont contre l'avortement et tout ça. Alors que là, il invite au respect. C'est cela que, au moins dans le système de communication, souvent l'Église, on se loupe. Quoi. Mm-hmm. Et à travers juste ce message-là, je crois qu'on peut rejoindre aussi beaucoup de gens hors référence religieuse qui sont très très attentifs à tout ce qui est vie dans la nature. Et qui vont être très très respectueux. Moi, j'en vois certains, quand ils voient un insecte, ils ne l'écrasent pas. Oui. Il le prend parce qu'il n'a pas été ici et ils vont le mettre dehors.
C'est ça.
Maintenant, on a de plus en plus. Il y a un respect du vivant, du sens large. Et du coup, à nous de nous appuyer là-dessus pour pouvoir montrer l'intérêt du texte.
Et ça va jusqu'à la reconnaissance de la dignité de tout être humain et de tout être.
Oui, de tout être, de plus que l'être humain.
Oui. Les deux.
Tout vivant.
Tout vivant.
Et ça, c'est surtout nos jeunes. Hein. Comme tu dis, là, pour les insectes et tout ça, moi, je mets mes petits-enfants, ils n'écrasent pas. Hein. Ils les poussent, ils les prennent, ils les mettent sur une feuille. Nous, on ne faisait pas ça. Hein, mais...
C'est
on écrasait volontiers, surtout les araignées.
Oui, aussi pour les araignées.
Si on y est un peu plus dans le texte, le fait qu'ils fassent des... Donc, qu'ils s'appuient sur les récits bibliques, en plus des récits très anciens.
Oui.
Comment ça vous parle? Comment ça nous parle à nous? Et le fait qu'il en fasse référence à des textes qui, dans notre société, sont considérés comme des vieux textes, bon, ça va bien, c'est de la mythologie, basta. Est-ce que ça vient nous réinterroger sur notre propre foi, j'ai envie de dire, le credo, dans le sens large?
Ça m'a ouvert les yeux sur l'histoire de Noé.
Oui.
Hein?
Deuxième.
Je n'avais jamais pas vu la colère de Dieu, en fin de compte. C'est une saine colère, parce que l'homme était en train de se perdre. Et... Noé a sauvé l'humanité. Tout cet être vivant, puisqu'il avait tous les animaux. Et... J'avais jamais vu ça sous cet angle-là.
Et sur les textes bibliques, vous avez ça, il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler. Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. C'est beau tout ça.
Oui, c'est au numéro 67.
Oui, cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'air humain et la nature.
Et c'est vrai que juste là-dessus, parce que souvent on entend procréer et soumettez-la dans les traductions, on entend soumettez-la, puis donc dans le soumettre, souvent on entend je fais ce que je veux, quoi. Ah, c'est mon patron.
Autorité.
Là, il nous invite à regarder autrement, donc c'est vraiment un changement quand même. Hein. C'est
comment
Mais pour parler que de la nature, justement, dans l'approche de la permaculture, on essaye de mettre des combinaisons de plantes côte à côte, parce que ce qui pourrait paraître comme des mauvaises herbes pourrait être bénéfique dans certaines conditions,
oui, oui.
Mais c'est pas automatique non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas. On pas au hasard, enfin, c'est une démarche scientifique. On essaye, on constate, et puis on garde ou on améliore. Mmh. Voilà l'importance du tout.
Oui, avant il y avait de la sagesse, plus de sagesse dans la manière de.
Les paysans, ils faisaient ça, ils mettaient certaines terres en jachère pendant que ça se reposait. Mais ça... Après, il y a eu la grande culture, il fallait produire un maximum.
Oui, peut-être que c'est la déviance de fait cette compréhension de la soumettez-la. Mmh. J'en fais ce que je veux.
Je le profite.
Eh oui. Mmh. On sait combien il tape sur là-dessus. Hein.
La dérive,
oui. J'ai vu un paysan tout à l'heure, hein, qui avait dû me voir pour autre chose, mais il me parlait de la crise du canard.
Ah oui.
Et il m'a dit la crise du canard, il n'y en a plus chez nous. Elle a tout détruit. Hein. Il dit, mais il fallait être con pour faire ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait de l'intensif, où les canards, ils n'étaient même plus dehors, et ceci, cela. C'était impossible que ça marche. C'était impossible. Vous savez, cette prise de conscience, hein. Autrefois, ils étaient toujours tous dehors, les canards.
Et ça faisait pas. Et ça faisait pas.
Une seule fois. Non, mais parlez fort pour tout le monde à chaque fois, parce que comme ça nous évite de faire des petits apparts.
Oui, parce qu'on est loin. Je dis, les canards qui étaient comme les animaux qui sont à l'air libre et qui ne sont pas confinés, comme ça. Ils savent se défendre parce qu'ils habitent dans la nature. Ils ont été agressés par certains trucs. Comme nous, avec Covid, hein, on ne sait plus se défendre. On n'a plus d'immunité. Parce qu'on s'est trop protégé, on a trop fait attention à tout. Et maintenant, le moindre petit virus qui arrive, là, il est méchant celui-là. Enfin bon, il détruit la Terre parce qu'on est trop protégé. Et c'est les pays les plus protégés qui sont les plus touchés.
Hein. Et ça vient du fait qu'on l'a exploité à outrance, là. Moi, dans mon exemple.
Et oui, c'est ça. Hein. On fait des erreurs. Hein. On les paye.
La question, c'est comment on est capable de rebondir.
Oui. Il
faut quand même faire attention à ne pas avoir une attitude de condamnation et de culpabilité à outrance, qui va encore plus décourager que de dire on va de l'avant.
Et pas rêver non plus au fond du temps. Ça fait toujours penser à cette chanson « Mon Dieu, que la montagne est belle ». Au moment, le chanteur, il dit « Leur vin, c'était une rue de piquette, mais il faisait des centenaires.
Oui. »
Bien gentil, mais à l'époque, des centenaires...
Il n'y
en avait pas beaucoup. Hein, quand il y en avait un, là, tout le département le fêtait, parce que c'était le premier. Alors, il ne faut pas non plus... la nature se sent plus tard, c'est bien gentil, mais... Parce que bon, on dit c'est vrai que l'agriculture a changé, etc. Et il a fallu ça pour arriver à la suffisance, à l'autosuffisance alimentaire en France.
Hein. Oui, oui.
Avant ces grandes exploitations, la France apportait de la nourriture. Peut-être pas du blé, mais c'est une grande partie. Alors, le bon vieux temps qui était tout mignon, il n'était pas si mignon que ça. Hein.
Ah non, non, il a laissé loin.
Tout le monde dit, votre génération, vous avez de la chance. Ben oui, 54, c'est quand même l'appel de la pierre. Ceux qui étaient dans les bidonvilles alimentaires sans chauffage, c'était la même génération. On s'était à la guerre d'Algérie, c'était la crainte de la guerre froide, c'est tout ça. Alors, ce temps merveilleux qui n'existe, cette douce France qui n'existe plus. Souvenons-nous.
Elle était beaucoup plus proche de la nature.
Comment ?
Elle était beaucoup plus proche de la nature, cette France.
C'est vrai que la vie des paysans n'était pas simple non plus.
Les paysans, ils vivaient dans quoi aussi, hein. Les paysans, ils n'avaient pas le chômage sur pas, ils n'avaient pas la sac de lin, ils avaient
non, c'est sûr.
Ils étaient exploités par leur seigneur.
En fin de compte, chaque période a ses beautés et ses limites. Et de fait, tomber dans de la nostalgie d'avant, ça n'a aucun intérêt, surtout ça ne nous aide pas.
Non, c'est pas faire une vraie catastrophe.
Et encore une fois, on n'est pas là pour nous dire tiens, retournons en arrière, mais comment vivre aujourd'hui d'une manière intelligente et respectueuse.
Mais il y a quand même des sacrées remises en question avec ce qui se passe actuellement, et par le Covid, et par l'agriculture intensive. Il y a beaucoup de remises en question. Hein. Alors, est-ce que le profit ne va pas oublier tout ça et on recommence C'est là qu'il faut dire, je pense.
Je ne sais plus si c'est ici que je l'avais dit le mois dernier, qu'il faut être très vigilant vis-à-vis de la jeunesse à la manière dont on parle de tous ces problèmes-là. C'était ici que j'en avais déjà parlé. Parce qu'en en fin de compte, on leur casse carrément l'espérance aux jeunes.
Ah oui, oui.
Et il faut être hyper vigilant de dire de fait, il y a des grosses questions, il y a des grosses remises en cause, mais à nous de trouver la manière d'en parler pour que ça les tire en avant et non pas de dire oh, de toute façon tout va à follow, donc on n'en a rien à foutre, donc à crever, autant en profiter jusqu'au bout. Hein.
C'est pour ça que je trouve que la référence au récit biblique, elle est intéressante. Oui. C'est juste, par rapport à Noé, par exemple.
Oui, voilà.
Ce n'est qu'un exemple. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça ne va pas bien du tout, et donc Dieu intervient pour rétablir un peu un certain ordre dans la vie du monde, et finalement, autre chose va repartir. J'avais retenu en particulier cette phrase-là dans le texte du pape au numéro 71. Il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Il suffit qu'il y ait un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Et ça, je pense qu'on en fait déjà l'expérience, au-delà même de la foi. C'est qu'au milieu des choses terribles que l'on peut vivre, je vais prendre un exemple d'une guerre, par exemple, hein, au milieu de ce qu'on fait de plus terrible dans la guerre, en même temps, il va sortir, rien qu'une déjà, figure de quelqu'un qui va inverser, et du coup prendre soin des malades, enfin je sais pas quoi. Vous savez, au milieu des collabos, mais il peut y avoir des résistants. Bon, les résistants non plus n'étaient pas blancs, je ne suis pas en train de simplifier, mais pour reprendre ça, et ça moi j'y crois vraiment, c'est le fait que c'est jamais évident. Mais voilà, il a suffi d'un homme comme Noé pour que quelque chose reparte. Voilà. Et je crois que c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Il suffit d'un homme bon pour qu'il y ait l'espérance.
C'est l'idée des justes aussi. Les justes.
C'est-à-dire dans la Bible, là, si j'en trouve 100, si j'en trouve 6,
le
marchandage de soupe orientale, c'est vraiment ancré dans la tradition. Mais...
Il y en a 15.
Donc c'est la 15, oui.
Je l'ai décrit là-bas.
C'est la phrase que vous lisez, là, si on continue un peu, il y a un truc qui est très beau.
On redonnait le numéro à chaque fois, 71.
Il faut faire ça, ça sera bien. À la suite de ce que dit le Père, il dit... La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rimes inscrites dans la nature par la main du Créateur. Mais ça, on le voit, c'est en ce moment, il y a plein de gens qui le découvrent à leur famille.
Mais du coup, j'avais juste un petit peu plus haut au numéro du 70. Où est ton frère Abel ?
Oui.
C'est une interpellation forte. Dans notre société où je n'ai rien à foutre du voisin, comment on peut réagir vis-à-vis de ça ?
Et non seulement on n'a rien à foutre du voisin, mais quand on voit qu'on supprime une vie intra-utérus, c'est quelque chose.
Bien sûr, oui.
Parce que, bon, on en avait prévu un et voilà qu'il y en a deux qui se présentent.
Mais même là, au niveau social, Ah, c'est ce désintérêt. Alors, comment arriver? Tiens, j'avais une question, puisque j'arrive dans le coin, je ne sais pas encore comment ça marche. Est-ce que, par exemple, le simple fait du... le repas des voisins,
oui.
Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas?
Oui.
Chez vous, ça fonctionne?
Oui.
Chez vous, oui, non, d'accord, mais sinon les autres années?
Oui.
Chez vous, ça va un peu? Mais peut-être que c'est là qu'il y a à être vigilant. Oui, c'est des actions toutes simples. Mais voilà, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Juste pour l'anecdote, c'est un cato qui était motivé à ça. Il a lancé ça au niveau national avec Jacques Lang. Et en fin de compte, quand lui-même l'a fait dans son quartier, ça n'a pas marché. Oui, donc il avait une idée. Il l'a proposé ailleurs, ça a mieux marché. Chez lui, il avait pourtant mis des papiers, il avait fait tout ce qu'il fallait faire. Ça n'avait pas marché la première année. La deuxième année, c'est un peu mieux pris, et ça a fonctionné. Mais je crois qu'il faut avoir des exemples concrets comme ça, qu'on commence quelque part, puis petit à petit, ça peut faire des...
Un exemple de cette année, c'est la question des boîtes de cadeaux solidaires.
Oui, ça a marché.
Ça a marché. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est parti d'un point local, et d'autres ailleurs se disent, tiens, on pourrait faire la même chose, en fait, nous. Voilà. Et moi, j'ai découvert ça ici, parce qu'il y a eu un point qui a été organisé à la mairie de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, l'ensemble scolaire Vincent-de-Paul s'est laissé interpeller. Et donc, les enfants de l'école, comme tant d'autres, ont participé à cette action. Voilà. Et de fait, il y a des choses comme ça, locales, qui peuvent inspirer un peu plus largement, être reproduites.
Il y a beaucoup d'initiatives qui émergent comme ça.
Comment ?
Il y a eu beaucoup de solidarité avec cette crise.
Et il me semble qu'un de nos moyens qui est très simple pour pouvoir avancer vers le mieux, c'est justement de savoir relayer toutes ces petites initiatives. Ne serait-ce que dans la parole. On sait qu'habituellement, une mauvaise nouvelle, on la reporte 10 à 15 fois dans la journée. Une bonne nouvelle, ça peine sur la repart une ou deux fois. Je crois que d'être chrétien, quand il n'arrête pas de rendre grâce, c'est de cet ordre-là. Je voudrais te parler de ça, parce que vraiment, je trouvais ça super, ta petite voisine, elle a fait ceci ou cela. Ouais. Et du coup, on le transmet. Est-ce qu'on a foi dans la force de notre parole ou de notre témoignage?
Le témoignage.
Hein? Le fait de dire, même si ce n'est pas nous qui faisons, mais oh, tiens, j'ai vu ça, et je le relaye. Et du coup, ça peut donner envie à d'autres. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens très simples, qui soient à notre portée, pour pouvoir... faire avancer.
Ouais. Je trouve que le témoignage du réel, du vécu, est bien visible, hein, porte bien autour de soi. C'est pas des paroles, quoi, c'est des petites choses, mais ça interpelle. Mais moi, je sais que ça m'a consolidé et aider à me mettre à aller plus loin de ce que je faisais, par exemple, par rapport aux questions de migrants. Voilà, de migrants. À un moment, je m'occupais que des Arméniens, en tant qu'Arménien, en tant que migrant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais la misère et la pauvreté, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion. Celui qui est en face de toi, il faut l'aider, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que ça trouve vraiment de l'écho dans ce texte, que rien n'est là par hasard, voilà. Et après, on est aussi dans la semaine de l'unité des chrétiens. Je vois aussi un lien de la séparation des églises les unes des autres, où on a quand même du travail dans cet esprit du Laudato aussi, même sur ce domaine, quoi. Je ne le garde pas que pour l'écologie, on plante ses choux et puis on passe là, quoi. Je crois qu'il faut l'intégrer dans sa vie, quoi.
Mais dans le pont où j'habite, c'est à Sassoniac, c'est un peu à l'extérieur du village. On marche avec ma femme pas mal. Il y avait toujours les mêmes qu'on voyait marcher. Depuis qu'il y a le confinement, puisqu'on a la possibilité d'aller marcher, il y a une foule de gens, hein, par rapport à ça. Ça a dû être multiplié par 5 ou 6, les gens qu'on croise et tout ça. Et il y a des gens qu'on voyait aller, et on commence à discuter, on se dit bonjour, les gens. Les gens sortent.
Là, on voit personne.
voyez personne.
Ça peut aussi être ça, mais... Alors, il faut entendre que de fait, sur certains lieux, il peut y avoir beaucoup de gens qui parlent. Oui. Alors après, de fait, peut-être qu'on est un peu timide pour aller à la rencontre. Parce que le pape, il incite beaucoup à la question de la relation. D'accord, et c'est le fait de tisser des liens qui va nous permettre d'aller plus loin. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose à trouver pour, dans des lieux où ça circule pas mal, susciter une discussion, une réflexion. Des fois, on est un peu timide, on n'ose pas.
Oui, il y a beaucoup de gens pour le moment qui ont peur, et si vous n'avez pas le masque bien placé,
alors voilà, c'est ça.
C'est loin. Oui.
Aussi.
Ils vont pas parler, ils vont trouver un problème avec ça. Ça leur fait peur.
Mais il y en a d'autres qui seront prêts à parler, parce qu'on sent bien une grande... les gens qui... Alors, de fait, la relation...
ça leur manque, oui. Ça manque beaucoup, ça. On est fait pour ça.
Et des fois, il ne faut pas grand-chose, de fait...
On est forcément des êtres de relation, non ? C'est normal.
Mais on a une tendance, dans notre culture, à l'oublier. Je préfère m'occuper de moi que...
On a tendance à l'oublier, mais beaucoup de gens se plaignent qu'avec le confinement, ils n'ont plus de relations sociales. Est-ce qu'au moins ils disent bonjour à leurs voisins ? C'est la question.
Il y a des choses. Ouais.
Je vois au numéro 71, il parle ensuite sur la question de la loi. Il y a beaucoup, si on prend le temps de lire le Lévitique, par exemple, qui est un livre de droit, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de règles pour avoir un équilibre vis-à-vis de la nature. Et de fait, on n'a pas trop dans notre tradition, enfin, moi je n'ai pas trop non plus, de voir qu'il y a tout un tas de lois qui sont saines et qui sont intéressantes à réentendre, non pas pour les appliquer telles qu'à l'époque, mais... Et entre autres, au niveau du 71, là, quand il dit la question du
sabbat.
Alors, il y a d'abord le sabbat pour se reposer. Vas-y.
Non, je lis simplement ça. Il donne l'exemple du sabbat. C'est un jour où Dieu est donc, prend le repos et les hommes sont invités. Et puis il y a la jachère, pareil, hein, ça, on retrouve ça tous les 7 ans, une partie de la terre à laisser en jachère.
Il laisse également la place aux plus pauvres, voilà, en ça. Ne ça. Labourant pas, en ne cueillant pas jusqu'au bout, en laissant pour les pauvres.
C'est la fin du 71, hein.
C'est ça. Oui. C'est vraiment, laisser la fameuse tradition de glaner.
Oui.
Tu laisses le pauvre glaner chez toi. J'avais encore vu quand j'étais en communauté dans le Nord. Il y avait le paysan qui était là à ramasser les patates. Et ben, dès qu'il était passé, tu avais les gens qui étaient derrière et qui venaient avec leur sac. Hein.
Ah, c'est joli.
Et récupérer les patates, je suis sûr, c'est dire. Là-haut, c'est très très concret.
Il y a même l'exemple du nid qui est tombé où il y a les petits oiseaux avec la maman dessus. Le nid, n'enlève pas la maman.
Oui, c'est ça.
Il va mourir les petits oiseaux.
Mais c'est vrai que du coup, c'est tout un tas, me semble-t-il, de petits moyens qui sont à notre portée dans notre tradition chrétienne. Pour être en lien avec des gens qui ne sont pas de notre tradition. C'est toujours cette question, comment rentrer en dialogue avec l'autre, sans les condamner, sans imposer notre point de vue, et de trouver des moyens de dire, ben voilà, il y a quelque chose de beau à approfondir ensemble.
Je crois que c'est une des questions de société où il y a consensus entre les religieux, enfin les cathos, enfin les spirituels, hein. Tout le monde. C'est une cause vraiment commune, quelle que soit notre sensibilité. Mais ça, c'est une sacrée ouverture aussi.
Encore un autre point qui m'a marqué au numéro 73.
73.
Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Et ce que je trouve bien, c'est la délicatesse. Le pouvoir infini de Dieu ne nous porte pas à fuir sa tendresse paternelle. Parce qu'en lui, affection et vigueur se conjuguent.
C'est fort.
Je trouve très très fort, de fait.
De fait, toute saine spiritualité implique en même temps d'accueillir l'amour de Dieu, d'adorer avec confiance le Seigneur pour sa puissance infinie. Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers en ces deux modes divins d'agir, sont intimement et inséparablement liés. Et je trouve que son texte nous invite à revisiter peut-être les images qu'on a de Dieu. Mais ça ne doit se faire aucune image
de Dieu. Sa paternité, sa tendresse. Mmh.
Parce que de fait, quand on parle de Dieu tout-puissant, je tremble, j'ai peur, je ne suis rien. C'est une tendresse infinie.
Ça fait du bien de lire ça. Ouais.
Et de fait, quand on va se promener dans la nature, qu'on prend le temps de contempler, il y a de cet ordre-là aussi.
C'est sûr.
Et au 84, il y a le sol, l'eau. Le sol, l'eau, les montagnes. Tout est caresse de Dieu. C'est magnifique, ça. Mm-hmm. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux ou des souvenirs qui font beaucoup de bien.
Ouais, c'est, ça.
Ah, c'est super ça, parce que ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive souvent.
Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous.
Et c'est vrai que ça, la nature, la beauté de la nature, nous force à y penser.
Voilà.
Même si on n'est pas dans cette... Hop, ça nous...
Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers.
C'est beau tout ça. Oui, oui.
Et au 77, la création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu as bien de dégoût pour rien de ce que tu as fait. C'est la sagesse. Par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde.
C'est pas par hasard.
Oui, c'est ça. Et de fait, il y a bien des gens qui ne vont pas vouloir dialoguer sur la question religieuse parce qu'ils sont... Voilà, il y a suffisamment de griefs contre nous. Mais sur ce point-là, c'est vraiment une porte d'entrée.
Oui, c'est ça. Il y a plein de portes d'entrée dans ce domaine.
C'est sûr.
Et là, on rejoint un peu, moi je rejoins un peu, ça me frappe encore plus, les gens, enfin les humains qui ne connaissaient pas Dieu encore. On est allé faire de l'humanitaire au Pérou, nous. Et j'ai été subjuguée par le fait qu'ils adoraient la mer, la terre, la montagne. C'était pour eux Pachamama, Pachacamac. Mais c'est vrai que la nature nous apporte Dieu. Si on connaît pas, si on n'a pas eu d'éducation religieuse et tout, on retrouve Dieu dans cette belle nature, dans tout ce qui nous frappe. Et c'est vrai que là, en regardant bien, la Titicaca, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'irréel. Tellement c'est beau, c'est cristal, c'est beau. Et je disais, mais oui, c'est Pacha. Pour eux, c'est divin, quoi.
Oui.
C'est des images divines.
C'est la terre.
Comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont adoré ça. Moi, je comprends. Mmh. Moi, je
aller en haut d'une montagne, en haut du soleil ou en
couchant, voilà, c'est ça.
Pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse.
Oui.
C'est fou.
Moi, j'ai une de mes belles-sœurs, elle me dit tous les jours, je vais me promener, je parle aux animaux, je parle aux plantes, aux arbres.
Moi, je parle aux arbres depuis toute petite.
Ah, oui. Et dans ce chapitre, il n'oublie pas Saint-François.
Ah oui, oui, il en parle. C'était le meilleur.
Alors, après, ça peut être pour la prochaine fois la question aussi. Parce que de fait, il y en a beaucoup qui sont. On est d'accord sur tous ces points-là. Et nous, chrétiens, on a quelque chose de particulier à annoncer avec le Christ. Mais c'est d'un autre ordre.
Oui, oui.
C'est tout autre chose. Et ça sera, c'est peut-être le gros défi quand on est dans le dialogue de la diversité. Comment donner notre spécifique? Qu'est-ce que le Christ a quelque chose? On ne va pas en débattre aujourd'hui parce que je vois que l'heure est passée vite. Mais c'est quand même intéressant de mettre ça un peu sous la tête. Enfin, parce que derrière la question d'être proche de la nature, c'est tous les courants spirituels, un peu ce qu'on appelle New Age, ou bouddhistes ou hindous, qui sont aussi là derrière. Quand on prend le temps d'analyser parfois quelques films à grand succès,
on s'aperçoit qu'il y a de cet ordre-là derrière. Quand on regarde Avatar, par exemple, c'est très clair. Il faut respecter la nature, elle est là, c'est du divin. Voilà, on doit respecter le divin, mais c'est un divin diffus. Enfin, pour nous, dans notre foi chrétienne, c'est à respecter, on a à aller plus loin. Mais c'est encore un défi à relever, quoi.